Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Puis Luc 19. L'évangile selon Luc, chapitre 19, verset 11. C'est une histoire pour les enfants, pour les adultes, pour nous tous. Une histoire que le Seigneur Jésus nous a racontée. Luc 19, verset 11, ou une parabole. Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta et leur dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. Il dit donc, un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donna 10 mines et leur dit, trafiquez jusqu'à ce que je vienne. Or, ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent après lui une ambassade, disant, « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Il arriva à son retour, après qu'il eut reçu le royaume, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Et le premier se présenta, disant, « Maître, ta mine a produit 10 mines. » Il lui dit, « Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses, et autorité sur 10 villes. » Et le second vint, disant, « Maître, ta mine a produit 5 mines. » Il dit aussi à celui-ci, « Et toi, sois établi sur 5 villes. » Et un autre vint, disant, « Maître, voici ta mine, que j'ai gardée, déposée dans un linge, car je t'ai craint, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas mis, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jugerai par ta propre parole, méchant esclave. Tu savais que moi je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque, et quand je serais venu, je l'eusse retiré avec l'intérêt? » Il dit à ceux qui étaient présents, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines, car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a, lui sera ôté. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Probablement, on va lire encore quelques versets. C'est un sujet très vaste, ce sujet du royaume de Dieu, mais c'est aussi un sujet très pratique. Je peux seulement donner une petite introduction et prier en même temps que le Seigneur puisse se servir de ses méditations, ses études, pour nous encourager à étudier ce sujet plus en détail pour nous-mêmes. Mais pas seulement cela, pour marcher aussi dans cette vérité qui est présentée dans ce sujet-là. En général, parmi nous, on connaît très bien la vérité de l'Assemblée. Les principes de l'Assemblée, les principes en rapport avec Christ dans la gloire, le corps de Christ, la maison de Dieu, tout ça. Mais cette vérité du royaume de Dieu est aussi une vérité très importante. Et on va voir un peu plus tard la différence entre ces deux grandes pensées. D'un côté, l'Assemblée, d'un autre côté, le royaume. Et je pourrais dire déjà maintenant, il y a peut-être 3 grands sujets dans le Nouveau Testament. Ce sujet du royaume de Dieu. Et on va voir, Dieu voulant demain, un peu aussi dans les écrits de Pierre. Pierre qui nous parle de ce royaume de Dieu. Il y a un autre grand sujet, l'Assemblée. Et c'était Paul qui était le ministre de l'Assemblée, auquel le Seigneur Jésus avait confié cette vérité, ce mystère même de l'Assemblée. Ça ne veut pas dire que Paul ne parle pas du royaume. On va voir quelques passages peut-être où Paul nous présente la vérité pratique du royaume. Mais ce que le Seigneur lui avait confié, surtout et en premier lieu, c'était la vérité de l'Assemblée. Et puis on peut penser à l'apôtre Jean, qui nous parle de la famille de Dieu. La famille de Dieu, ce n'est pas une expression qu'on trouve dans la parole, mais c'est clair ce qu'on veut dire avec ça. Ça veut dire que les membres de cette famille-là appartiennent à Dieu le Père et ont la vie de son Fils comme leur vie. Et d'une telle façon, tous les membres de cette famille sont liés les uns aux autres, mais aussi à Dieu le Père et au Fils. Ce sont 3 grands sujets qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et ce sujet du royaume de Dieu est très vaste, comme j'ai dit, mais aussi très important pour nous pratiquement. On pourrait dire, si je ne marche pas dans la vérité du royaume de Dieu, je ne peux pas réaliser la vérité de l'assemblée. Je répète, si je ne marche pas pratiquement dans la vérité du royaume de Dieu, je ne peux pas pratiquer vraiment, mettre en pratique les principes concernant l'assemblée. Je peux peut-être connaître ces principes intellectuellement, mais je ne peux pas les mettre en pratique. Donc ces deux vérités sont liées intimement ensemble. Comme je mentionne simplement dans Colossiens 1, on voit que l'apôtre Paul, peut-être on va lire ce passage plus tard ou demain, Dieu voulant, mais dans Colossiens 1, l'apôtre Paul nous parle du royaume du Fils, de l'amour du Père, où Dieu le Père nous a transformé, il nous a introduit dans ce royaume-là. Et après, il nous parle de l'assemblée. Mais surtout, j'aimerais souligner la personne qui est présentée dans ce royaume. C'est d'un côté le royaume de Dieu. Et on trouve dans l'Ancien Testament déjà que Dieu est appelé le roi éternel. Donc Dieu est le roi de ce royaume, d'un sens. Mais vous voyez, Dieu a confié l'autorité dans ce royaume à un homme. Puis il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament, qui nous suggèrent. Je mentionne simplement quelques passages. D'abord, pour dire ce que ce n'est pas. Il y a des chrétiens qui pensent que le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Dans ce cas-là, le royaume de Dieu existerait déjà dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas le cas. On va voir tantôt, dans le Nouveau Testament, que le royaume de Dieu a commencé lorsque le Seigneur Jésus est venu ici-bas et a commencé son ministère. Seulement là, le royaume de Dieu a commencé, d'un sens. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu l'avait annoncé. D'abord, par quelques personnes. J'aimerais mentionner juste brièvement quelques personnes dans lesquelles on voit quelques aspects du royaume de Dieu, sans que ce royaume fût réalisé dans ce temps-là. On pense d'abord à Adam. Dans Adam, créé le sixième jour, on voit que Dieu avait confié l'autorité. Adam a pu donner un nom aux animaux. Ça nous parle de son autorité que Dieu lui avait confiée. Donc Adam, dans ce sens-là, avant la chute, est une image du Seigneur Jésus comme l'homme, le Fils de l'homme à qui Dieu a confié l'autorité. Mais c'était seulement une image, ce n'était pas encore la réalité vraiment du royaume de Dieu. Une autre image qu'on trouve dans la Genèse, c'est Melchizédek. Melchizédek, le roi sacrificateur. Et dans le millénium, on va voir le Seigneur Jésus comme le roi sacrificateur. C'est remarquable. Déjà maintenant, on le voit dans l'Épître aux Hébreux comme le grand Melchizédek, mais c'est pour la foi. Un moment donné, son règne sera établi sur cette terre, dans ce monde, comme le grand Melchizédek. Ce sera merveilleux d'avoir un roi sacrificateur sur le trône de Dieu. Et ce royaume sera établi publiquement. Mais dans les jours de Melchizédek, ce n'était pas encore établi. Mais Melchizédek était un type, une image du Seigneur Jésus. Et ces images nous aident à comprendre comment le Seigneur Jésus va régner dans le millénium. Il y avait d'autres personnes dans l'Ancien Testament, on pense à David et Salomon, en qui on voit d'une façon particulière la vérité du royaume, sans que le royaume était vraiment établi. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, le bien-aimé, l'homme en qui Dieu avait trouvé son bon plaisir, c'est vraiment une très belle image de notre Seigneur Jésus. Et Salomon, le roi de paix, nous parle aussi de ce règne futur de notre Seigneur Jésus. Mais j'ai donné quatre noms, et c'est beau de voir que ce règne, c'est surtout lié à une personne. Et ces quatre noms que j'ai mentionnés préfigurent, d'un certain sens, cette personne merveilleuse de notre Seigneur Jésus. Mais c'était simplement des types faibles, il est vrai, de notre Seigneur Jésus. La réalité, le Seigneur Jésus les surpasse. Il y avait aussi les prophètes qui avaient annoncé le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Daniel, on n'a pas le temps maintenant d'étudier à profond ce sujet, mais dans Daniel 2, on voit cette grande statue. Nebuchadnezzar était la tête d'or. Et puis on voit tous ces royaumes, ces quatre royaumes des nations. Puis à un moment donné, cette pierre qui était détachée dans la montagne, puis a écrasé, est descendue de la montagne et a écrasé cette statue. Et puis c'est le royaume que le Seigneur Jésus va établir dans ce monde. D'un sens, le Seigneur Jésus est venu, comme on va voir, mais Daniel 2 nous parle aussi du futur où le Seigneur Jésus va vraiment établir son règne, va mettre de côté le règne des nations. Mais surtout dans Daniel 7, nous avons vraiment un très beau passage qui nous parle du Seigneur Jésus comme le Fils de l'homme. Parce qu'il est important à comprendre que Dieu voulait mettre toute l'autorité entre les mains d'un homme. On le voit dans le psaume 2 comme le Fils de Dieu. On le voit dans le psaume 8 comme le Fils de l'homme. Et dans Daniel 7, on voit qu'il est appelé Fils de l'homme ou un Fils de l'homme. Dieu est appelé l'Ancien de jour. Et puis, si on étudie ce chapitre avec soin, on va voir que, à un moment donné, le Seigneur Jésus, comme le Fils de l'homme, est aussi indiqué comme l'Ancien de jour. Ça, c'est remarquable. C'est pour nous montrer que cette personne, cet homme, est en même temps Dieu. Donc, j'aimerais simplement encourager à lire ce passage avec soin à la maison, Daniel 7, qui nous montre ce règne qui sera confié entre les mains d'un homme, notre Seigneur Jésus. Mais de nouveau, c'est en rapport avec son règne futur, dans le millénium, comme on le trouve dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, ce serait aussi un chapitre à étudier. Donc, on voit que ce royaume était annoncé par les prophètes et préfiguré, on pourrait dire, dans ces quatre personnes, quatre hommes que j'ai mentionnés. On pourrait ajouter aussi Nebuchadnezzar lui-même. Il est aussi une image de notre Seigneur Jésus comme chef des nations, comme le Seigneur Jésus le sera dans le millénium. Il y a beaucoup d'images aussi, Cyrus, le roi des Perses, qui nous parle du règne futur de notre Seigneur Jésus. Mais, lorsque le Seigneur Jésus est venu ici-bas, on va maintenant chercher un passage dans le Nouveau Testament, dans Luc, peut-être d'abord Luc 7, verset 28. Dans Luc 7, verset 28, nous lisons, « Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean le baptiseur, mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Ici, nous avons un verset qui nous montre l'importance du royaume de Dieu et le grand privilège d'avoir une place dans le royaume de Dieu. Et ce passage nous montre aussi que même ce grand prophète, Jean le baptiseur, n'avait pas de place dans ce royaume de Dieu. Il était le précurseur du roi. Il était l'ami aussi du Seigneur Jésus, comme on le trouve dans Jean 3. Mais lui était le plus grand prophète. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé la venue immédiate de notre Seigneur Jésus. C'était un grand privilège pour lui, mais il était le moindre dans le royaume de Dieu. C'est remarquable. Ça nous parle donc de la différence de position. Quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu a une position plus élevée, et le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand, selon cette position, même que Jean le baptiseur, quoiqu'il soit moralement plus grand que beaucoup de nous. Mais c'est donc la différence de position. Ça nous montre l'importance du royaume de Dieu. Un autre verset dans Luc, juste mentionner quelques versets, on trouve dans Luc 30 fois l'expression « royaume de Dieu ». Et Luc nous donne surtout le caractère moral du royaume de Dieu. Dans Luc 16, un verset qui nous parle de nouveau du royaume de Dieu, Luc 16, verset 16. « La loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » Ici, on voit donc que les prophètes et la loi ont été jusqu'à Jean, et la loi et les prophètes étaient la préparation pour le royaume. Comme on l'a vu tantôt dans l'Ancien Testament, la loi, le livre de la Genèse par exemple, mais aussi les prophètes qui ont annoncé le royaume, étaient la préparation. Et cette préparation va jusqu'à Jean, le baptiseur. Puis dès lors, le royaume de Dieu est annoncé, ou selon la note, évangélisé. C'était donc une bonne nouvelle de ce royaume de Dieu, et chacun use de violence pour y entrer. Parce qu'il faut réaliser maintenant, et on va voir cet aspect-là, souvent, que ce royaume est établi maintenant dans un monde où tout est contraire encore à Dieu. Juste pour expliquer ce point-là un peu, pour donner le contraste avec Adam. Pour Adam, Dieu avait préparé tout auparavant. Et le dernier était Adam. Dieu avait tout préparé. Et comme le dernier, Adam était introduit par Dieu dans ce royaume, pour ainsi dire, dans ses bénédictions de ce que Dieu avait préparé. En rapport avec le Seigneur Jésus, c'est juste le contraire. Dieu commence par le Seigneur Jésus. Il introduit le Seigneur Jésus. Il a donné son Fils, il l'a introduit dans ce monde. Et puis, Dieu commence à bâtir, pour ainsi dire, ce royaume, à établir ce royaume, par son Fils. Il commence là. On va voir un autre verset dans chapitre 17 qui confirme cette pensée. Chapitre 17, verset 21. Verset 20 du 21. Or, étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention, et on ne dira pas, voici il est ici, ou voilà il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pourquoi le Seigneur Jésus a pu dire ça? Parce que lui était le roi. Et là où le roi se trouve, le royaume de Dieu se trouve. C'est ça le principe. Donc on voit le contraste avec Adam. Dieu avait tout préparé, puis introduit Adam. Ici, tout est contraire à Dieu. Tout est hostile à Dieu. Mais Dieu introduit son homme, l'homme oint de Dieu. Comme on le voit dans Luc 3. Dieu l'a oint. Dieu a exprimé son bon plaisir dans cet homme. Dieu l'a introduit dans ce monde où tout est contraire à Dieu. Et voilà le royaume de Dieu. Et d'une telle façon, le Seigneur Jésus confirme cette pensée dans le verset 20. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. C'est ici le cas. Le royaume de Dieu va venir plus tard par les jugements. Il sera établi publiquement. Mais ici, c'est son caractère moral, comme c'était manifesté, montré dans le Seigneur Jésus. Dans ce sens-là, c'était pas avec puissance publique, mais avec une puissance morale. Parce que ça veut dire quelque chose que Dieu introduit dans ce monde où tout est contre lui, qui peut introduire un homme, et que cet homme va tout changer. Et c'est pour ça qu'on a lu ce verset tantôt dans chapitre 16. Dès lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Parce qu'il faut réaliser que tout est contre ce royaume. Tout est contre ce roi. Donc pour être introduit dans ce royaume, il faut utiliser de violence. Mais, attention ici, pas une violence avec des armes, mais une violence spirituelle, une force spirituelle, une énergie spirituelle. Et ça, c'est important à comprendre. Probablement, demain, Dieu voulant, on va voir encore des versets dans Jean 18 qui confirment cette pensée, où le Seigneur Jésus a dit que ses disciples ne voulaient pas défendre ce royaume avec des armes et tout ça. C'est moralement que ce royaume est introduit maintenant. Peut-être encore un verset dans... Oui, je pense que c'est bon de tourner vers Matthieu avant qu'on lise ces passages qu'on étudie ces passages qu'on a lus tantôt. Mais dans Matthieu 12. Dans Matthieu, on voit 5 fois l'expression « le royaume de Dieu ». Et juste une petite parenthèse, on trouve, je pense, 32 fois l'expression « le royaume des cieux ». Et le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est pas différent. C'est la même pensée, mais vu d'un point de vue différent. Le royaume des cieux nous parle surtout du fait que Dieu est venu dans ce monde, Matthieu 1. Et puis c'est un royaume qui est établi d'en haut, pour ainsi dire. Établi, introduit dans ce monde, mais venant d'en haut. Et peut-être aussi on peut dire, Matthieu utilise souvent le royaume des cieux parce que les Juifs n'avaient pas l'habitude d'utiliser le nom de Dieu. Souvent. Il avait peur d'utiliser le nom de Dieu en vain. Donc, ils n'ont utilisé le nom de Dieu presque jamais. Et peut-être aussi pour ça que Matthieu parle du royaume des cieux. Mais cela a la même signification que le royaume de Dieu. Et les 5 passages dans Matthieu qui nous parlent du royaume de Dieu, qui utilisent cette expression, nous confirment cette pensée. Mais on n'a pas de temps pour comparer tous les passages. Ça, on peut le faire avec la concordance, ça aide beaucoup. Mais dans Matthieu 12, verset 28, le Seigneur nous dit, « Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » C'est très clair. Ça nous montre donc la puissance morale qui était là. « Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » C'est très clair comment le Seigneur Jésus allait établir ce royaume. Mais ce qu'on voit maintenant, que le Seigneur Jésus était rejeté. Il est venu comme le roi promis dans l'Ancien Testament, selon les passages qu'on a lus dans Daniel 2 et Daniel 7. Il réfère à tout ça, lorsqu'il a annoncé le royaume des cieux. Mais il était rejeté. Et maintenant, je veux revenir à cette remarque-là, que le Seigneur a introduit, Dieu a introduit son roi dans un monde où tout est hostile, et que ça demande beaucoup de violence. Et maintenant, on va revenir à ce passage dans Matthieu 6. Dans Matthieu 5 à 7, nous avons la loi du royaume, comme annoncé pour les Juifs, les grands principes du royaume de Dieu. Mais remarquons, ce sont des principes qui présupposent, pour ainsi dire, son rejet. Ça, c'est remarquable. Si on lit avec soin Matthieu 5, vous voyez, on ne peut pas parler de tous les passages qui nous parlent du royaume de Dieu. C'est un sujet tellement vaste. Et j'aimerais simplement stimuler ou encourager le goût à étudier ce sujet-là. Mais dans Matthieu 5, où le Seigneur Jésus nous parle de ces principes du royaume, on voit clairement que c'est un royaume qui est établi ou introduit là où il y a beaucoup de résistance contre ce royaume. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous parle, par exemple, de ceux qui, verset 6, qui ont faim et soif de la justice. Ça nous parle aussi des disciples futurs qui seront sur cette terre après l'enlèvement de l'Église. Mais nous avons maintenant la place des disciples dans le royaume de Dieu. Et nous, le Seigneur veut que nous ayons ces mêmes attributs que ses disciples avaient dans ce temps-là. Donc, on voit ici les principes du royaume dans un monde où le roi était rejeté, en principe déjà. Le Seigneur a prévu qu'il soit rejeté. Ce n'était pas encore le cas lorsqu'il a donné ses lois dans Matthieu 5. Il était encore là, il était accepté, mais il a prévu son rejet. Et puis, il parle de la persécution, verset 10, « Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. » On va en parler en détail, Dieu voulant, demain, après-midi. Verset 11 aussi, « Et qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. » Et ces principes que le Seigneur donne ici, au début du chapitre 5, présupposent donc le rejet du roi. Et c'est encore aujourd'hui le cas. Si nous pouvons reproduire ces attributs qu'on trouve dans Matthieu 5, c'est dans un monde où le roi est rejeté. Mais ça, c'est exactement tellement précieux pour le roi lui-même. Le Seigneur Jésus est très heureux, pour ainsi dire, si nous sommes fidèles à lui dans un monde où il est rejeté. Si nous le respectons et l'honorons dans un monde où il est rejeté. Et voilà Matthieu 6 que nous avons lu, verset 33. Il faut faire un choix. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Il faut faire un choix. Et c'est indiqué par ce mot « premièrement ». Je pense tous les chrétiens aimeraient chercher le royaume de Dieu, aimeraient avoir une part dans le royaume de Dieu, une part pratique. Mais il faut faire un choix. C'est une question de priorité. C'est très pratique. Si je me lève le matin, est-ce que je vais faire mon hobby ou est-ce que je vais lire d'abord la parole et prier? Il faut faire un choix. Et puis le Seigneur va nous honorer, il va nous bénir si nous faisons ce choix. Si nous mettons le royaume de Dieu premièrement. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas avoir des hobbies. Non, le Seigneur dit, toutes ces choses vous seront ajoutées. Le Seigneur connaît nos besoins. Il sait que nous avons besoin de la nourriture et toutes ces bénédictions terrestres. Mais il faut placer son royaume en premier lieu. C'est une question de choix. Puis si nous honorons le Seigneur, en faisant ce choix, il va nous honorer. Il va donner tout ce dont nous avons besoin, comme il le dit ici. Et puis, car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Puis à la fin du verset 33, « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Par-dessus. Ça veut dire le royaume de Dieu est la chose la plus importante. Mais ces choses nous seront ajoutées, parce que notre Père sait que nous avons besoin de ces choses. Mais de nouveau donc, il faut réaliser ici que le royaume de Dieu est rejeté dans ce monde. Et c'est donc vraiment une question de choix. Ça demande de l'énergie spirituelle, comme nous avons vu dans Luc tantôt. Maintenant encore, juste quelques pensées en rapport avec le rejet du roi. Si on lit l'évangile selon Matthieu, on voit que le Seigneur Jésus a été rejeté après qu'il ait donné ses principes, après qu'il a manifesté ou opéré ses miracles, chapitre 8 et 9. Là, on voit déjà en principe son rejet. Mais dans le chapitre 11, on voit vraiment qu'il est rejeté. Et dans le chapitre 12, l'Esprit confirme qu'il était rejeté. Et puis, l'Esprit nous montre la grandeur de la personne. J'aimerais juste en quelques mots souligner maintenant l'importance de voir le Seigneur Jésus devant nos cœurs. Nous avons pensé dans notre prière aussi du Seigneur Jésus dans la gloire. Il est un roi rejeté. Il est un roi en qui Dieu a trouvé tout son bon plaisir. Et c'est ça qu'on trouve notre place maintenant, notre place dans le royaume de Dieu, et c'est une forme cachée que le monde ne connaît pas, que même les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas connue, cette forme cachée, mais c'est une forme réelle. Et j'aimerais maintenant lire un verset dans Matthieu 10 qui nous aide à comprendre notre place dans le royaume de Dieu. Matthieu 10, versets 24 et 25. Matthieu 10, verset 24. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit aux disciples qu'ils soient comme son maître et à l'esclave qu'il soit comme son seigneur. Il faut réaliser pour nous que notre place comme croyant dans le royaume de Dieu est une place d'un disciple. Disciple veut dire quelqu'un qui instruit, mais aussi quelqu'un qui suit. Les deux pensées sont là. Quelqu'un qui est instruit par le maître ou l'enseignant et qui le suit pratiquement, parce qu'il donne l'exemple, il est le modèle. Deuxièmement, nous sommes aussi vus comme étant des esclaves. Un esclave n'a pas de droit, n'a aucun droit. Un esclave ne peut pas suivre sa propre volonté. C'est absolument impossible. Un esclave peut seulement faire ce que le maître ou le seigneur veut qu'il fasse. Ça, c'est notre place dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de lien avec le Seigneur Jésus, comme dans l'assemblée? Bien sûr. Mais c'est une autre place que le Seigneur nous a donnée. Notre place comme membre dans le corps, comme lié à Christ dans la gloire, c'est une autre, disons, une autre position que le Seigneur Jésus nous a donnée. Mais dans les deux cas, il y a ce lien avec le Seigneur Jésus. Ici, dans le royaume, c'est notre privilège d'être associé au roi, d'être ses sujets maintenant, ses disciples, ses esclaves. Et à un moment donné, on va régner avec lui. On va lire peut-être plus tard Romains 8, qui nous parle de ses souffrances maintenant avec lui, pour régner avec lui plus tard. Ce sera notre place comme l'épouse, comme la reine avec le roi. Mais maintenant, nous avons cette place des sujets soumis à son autorité, instruits dans ses pensées comme disciples, mais soumis à son autorité. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut maintenant? Verset 25. Il suffit aux disciples qu'ils soient comme son maître. J'aimerais bien que vous méditiez sur ce verset-là. Ce verset-là a une importance, une grande importance. Il suffit aux disciples qu'ils soient comme son maître. Le Seigneur veut que nous soyons formés donc à son école pour devenir comme le maître. Lui est le standard pour devenir comme le Seigneur. Quel standard élevé! Et puis le Seigneur a permis que nous ayons donc une place dans ce royaume afin que nous soyons formés selon ce standard. C'est un grand privilège, je répète, pour avoir une place dans le royaume de Dieu dans le temps où le roi est rejeté. C'est tellement précieux pour le Seigneur d'avoir des disciples maintenant qui sont fidèles à lui. Lorsqu'il va y régner dans le millénium, tout le monde lui sera soumis, aucune exception, et ceux qui se rebellent seront tués tout de suite. Ce sera facile pour se soumettre à son règne. Mais aujourd'hui, être soumis à son règne, pour les enfants à l'école, à obéir au maître lorsqu'on se moque de lui, obéir aux parents, ce sont des principes qu'on trouve dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus est heureux si nous sommes fidèles dans le sens qu'on respecte ses droits dans un monde où il est rejeté. Une autre pensée que j'aimerais juste mentionner, c'est Matthieu qui nous parle surtout de l'histoire de ce rejet et aussi des changements des dispensations. Mais c'est ça qu'on peut pas étudier maintenant profondément, mais c'est ça qu'on trouve dans Matthieu 13 et d'autres passages plus tard aussi dans Matthieu qui nous parle des changements de la dispensation à cause du rejet du roi. Mais dans Luc, comme nous avons vu tantôt dans ces quelques passages, et on pourrait lire encore beaucoup d'autres passages, dans Luc nous trouvons surtout l'aspect moral du royaume de Dieu, avant que ce soit établi publiquement dans ce monde. Maintenant, un autre principe encore, je donne simplement quelques grandes pensées, quelques grandes lignes. Un autre principe, c'est ceci. Dans le royaume de Dieu, où nous avons une place, Dieu veut que ce soit un témoignage du royaume comme il sera établi à l'avenir. Donc, la place que nous avons dans le royaume de Dieu est un témoignage dans ce monde de ce royaume qui sera établi publiquement. Ça, c'est une autre grande pensée que j'aimerais présenter et qu'on puisse méditer là-dessus. Donc, cette pensée-là, que le royaume de Dieu, comme il est réalisé dans nos cœurs, dans nos vies, est un témoignage pour Dieu, mais de la part de Dieu, pour ce monde, du royaume comment il sera établi publiquement dans le millénium. Et c'est un honneur pour nous d'être des témoins de ce royaume. Imaginons cet honneur que Dieu nous donne d'être des témoins de ce royaume futur. Ce royaume futur sera établi, il y aura ce règne public du Seigneur Jésus, mais nous rendons témoignage de ceci dans le temps où le roi est rejeté. Et ce témoignage est vu dans nos corps, est vu dans notre comportement, dans tous ces détails. Et voilà l'importance d'un verset comme nous avons lu dans Matthieu 10, versets 24 et 25. Il y a donc deux aspects du royaume de Dieu. L'aspect présent, et on a vu, le roi a été rejeté, la forme a changé, le roi se trouve dans la gloire, et on va voir ça dans Luc 19, le passage qu'on a lu. Il y a cet aspect futur. Peut-être je peux maintenant tourner de nouveau à Luc 19, parce que c'est exactement là où les disciples avaient des problèmes. On le trouve aussi dans Acte 1, où le Seigneur Jésus a parlé du royaume de Dieu. Puis les disciples ont demandé tout de suite, « Mais est-ce que vous allez établir maintenant le royaume de Dieu pour Israël, le royaume pour Israël ?» Non, c'était pas encore le temps. Et ici, on voit Luc 19. On voit les miracles du royaume de Dieu. On voit la puissance morale de ce royaume comme nous avons vu déjà dans quelques passages. Est-ce que ce royaume serait établi maintenant, avec force, avec puissance, publiquement? Non. Le Seigneur Jésus donne à ce moment-là cette parabole. Verset 11, nous avons lu, comme il entendait ces choses, il ajouta, il leur dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem. Et ça veut dire près de sa mort, où il serait rejeté, pas seulement dans le sens-là que les chefs ne l'avaient pas accepté, mais rejeté dans sa mort. Mais eux pensaient que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. En autre mot, que le royaume de Dieu serait établi publiquement tout de suite. Mais ce n'était pas le cas. Le roi a été rejeté, il a prévu cette forme cachée du royaume. Et remarquons maintenant verset 12, il dit donc « un homme noble ». Voilà, quel homme ? On aime penser au Seigneur Jésus. Souvent, on pense à ces expressions qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Cet homme, un homme, comme Ésaïe 32. Joseph, un homme en qui l'Esprit de Dieu se trouve. Aussi dans Daniel, on trouve cette expression. Un homme, voilà un homme noble. Ça, c'est de nouveau la grandeur de notre Seigneur Jésus. Il était rejeté dans ce monde, il était rejeté par son peuple, mais il est quand même cet homme noble. Il s'en alla dans un pays éloigné. Ça nous parle donc du fait qu'il est maintenant dans la gloire. Et dans Colossiens 3, on voit qu'il est caché en Dieu. Dans 1 Pierre 3, verset 22, à la fin, on trouve qu'il est à côté, à la droite de Dieu. Et toute autorité lui a été donnée, même l'autorité sur les anges. Tout lui a été soumis. Ça, c'est la grandeur de cet homme noble. Il est là pour recevoir un royaume. Dieu lui a donné ce royaume maintenant, selon ces versets que j'ai mentionnés. Le Seigneur a reçu ce royaume, mais c'est caché pour le monde. Acte 2, Seigneur et Christ. Comme Seigneur, il a reçu cette autorité, mais c'est caché pour ce monde. Et il y a beaucoup de passages qui nous confirment cette pensée, qu'il a cette autorité, mais c'est caché devant le monde. Donc, la forme du royaume, dans ce sens-là, était aussi cachée dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on voit cette pensée-là, qu'un homme soit dans la gloire, psaume 110, mais cette pensée qu'il était en même temps rejeté n'était pas prévue. Verset 13 maintenant. « Et ayant appelé 10 de ses propres esclaves. » Le nombre 10 nous parle de la responsabilité. Ses propres esclaves. C'est notre place, comme nous avons vu dans Matthieu 10, d'être des esclaves du roi, de cet homme noble. Il nous appelle, il donne des instructions, il donne des ordres selon notre responsabilité. Le nombre 10 confirme cette pensée de la responsabilité. Il leur donna 10 mines et leur dit, trafiquez jusqu'à ce que je vienne. Ça, c'est notre place maintenant dans le royaume de Dieu. Pas établir le royaume avec force. Il y a des chrétiens qui disent le royaume de Dieu aujourd'hui et ici. Ils veulent établir ce royaume par la rébellion, comme en Afrique du Sud, et on pourrait donner d'autres exemples, c'est la théologie de la délivrance, Liberation Theology. C'est la théologie selon laquelle on veut établir le royaume de Dieu ici et maintenant par propre force. Non, ce n'est pas selon les pensées du Seigneur. Ses pensées, c'est qu'on trafique, et cela nous met au test, cela nous met à l'épreuve, parce que est-ce qu'on sera fidèle? C'est plutôt selon les pensées de l'homme, du cœur humain, d'établir ce royaume avec force. C'est ça qu'on aime. Mais pour trafiquer, ça expose toutes nos faiblesses. Ça expose si je suis fidèle, si je suis honnête, oui ou non. Ça expose si je veux continuer malgré des manques que je découvre en moi-même ou dans les autres, si je veux continuer avec fidélité. Ce sont beaucoup de pensées qu'on trouve en rapport avec cette pensée trafiquée. Ça nous expose d'un sens négatif ou d'un sens positif. Mais c'est notre place maintenant, trafiquée. Mais il ajoute cette pensée, jusqu'à ce que je vienne, en vue de sa venue. Ça, c'est très important. Les esclaves trafiquent ayant le retour du maître dans leur cœur. Ils trafiquent en vue de sa venue ou de son retour. Ça, c'est très important. Ce service que le Seigneur nous confie, chacun de nous, est quelque chose qu'on fait dans l'attente de son retour. Et puis, chaque chrétien a ses mines. Ou chaque esclave, c'est mieux. Parce que, ici, les chrétiens professants sont inclus. Tous les esclaves, ceux qui s'appellent selon leur propre pensée comme esclaves, sont impliqués là-dedans. Il y a deux grandes divisions dans ce monde. Les incrédules, les croyants. Mais il y a aussi une autre division. Ceux qui professent et ceux qui ne professent pas. Ceux qui professent, là, il y a cet élément de la profession de ceux qui ne sont pas sauvés et ceux qui sont sauvés. Nous confessons, on espère le voir demain, le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, comme notre Roi. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas nées de nouveau qui le confessent aussi. Donc, il y a ces deux distinctions dans ce monde. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup qui confessent ce nom sans être nés de nouveau, qui sont seulement professants dans ce sens-là. On trouve aussi dans 1 Corinthiens 3 d'autres passages dans la parole. Verset 14. Or, ses concitoyens le haïssaient, ils envoyèrent après lui une ambassade, disant, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Cela a été réalisé aussi dans les jours du Seigneur Jésus, lorsque Hérode le Grand est mort, voulait avoir son fils comme le roi, puis il était à Rome pour être établi dans son règne par l'empereur, et puis les Juifs ont envoyé une ambassade. Ici, dans ce contexte, je veux dire ce que les Juifs ont fait après le rejet du Seigneur Jésus. Après que le Seigneur Jésus soit mort, soit mis à mort, soit ressuscité et enlevé dans le ciel, les Juifs ont envoyé cette ambassade. Comment? Dans le rejet d'Étienne, dans le rejet du message que le Seigneur a donné aux apôtres au début du livre des Actes. Là, on voit comment ils ont envoyé cette ambassade, disant, nous ne voulons pas que celui-ci soit roi sur nous. Ils l'ont rejeté. Et à cause de ça, on voit aussi plus tard la destruction de Jérusalem. Verset 15. Il arriva à son retour, après qu'il eut reçu le royaume, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves. Ici, on voit donc le moment du compte rendu où tout le monde doit rendre compte de ce qu'il a fait. À son retour. Voilà, c'est une pensée assez large. Quand tous ces détails seront réalisés, on peut pas maintenant entrer dans tous les détails, mais cette grande pensée en rapport avec son retour. Et puis, quel est le test? C'est la fidélité. Comment ils ont agi avec ces mines? Et je souligne, chaque esclave a reçu la même chose. Dans ce sens-là, la grâce de Dieu, comme on le trouve dans l'Évangile selon Luc, est la même pour nous tous. Mais c'est une question de notre fidélité et de notre diligence. Ce que nous avons fait avec cette mine. Comme l'apôtre Paul, il était très diligent. Il a multiplié ces mines. Et moi, comparé à l'apôtre Paul, je suis moins zélé, moins diligent, moins fidèle. Mais j'espère que nous tous allons reproduire d'autres mines, pour ainsi dire. Qu'on va utiliser ce que le Seigneur nous a confié pour sa gloire. Pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. Et puis, ça veut dire, on reconnaît pratiquement son autorité. Ça, c'est le principe ici. Ces esclaves travaillent. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur maître. Ils aiment leur roi. Quoi qu'il soit rejeté dans ce monde. Quoi qu'il soit rejeté dans ce système judaïque et dans la chrétienté. Nous aimons. Les esclaves qui aiment leur maître vont trafiquer. Ils auront beaucoup de zèle. Et c'est ouvert pour nous tous. Pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes, pour les parents, pour tous les frères et sœurs, c'est possible à trafiquer. Et c'est selon les instructions du Seigneur Jésus. Et c'est une joie pour lui, comme j'ai dit, si nous faisons ceci, dans le temps où il est rejeté. Verset 17. Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses et autorité sur 10 villes. On voit ici que notre service, maintenant, va donner une place dans le royaume futur. Ici, on a le temps encore, on va lire tantôt un verset dans 2 Pierre 1 qui nous souligne cette pensée. La fidélité, la diligence, le zèle avec lequel j'ai trafiqué aujourd'hui va donner une place dans le royaume futur. Ça ne veut pas dire dans le ciel, dans le paradis ou dans la maison du Père, parce que là, tous les chrétiens auront la même place. Il n'y a aucune différence entre les enfants de Dieu. Dieu les aime avec le même amour. Mais la place que nous aurons dans le royaume est donnée en rapport avec notre zèle, en rapport avec notre diligence, en rapport avec notre fidélité aujourd'hui. Il y a une différence entre cette parabole et la parabole dans Matthieu 24, mais on peut en parler plus tard. Dans verset 20, on voit l'autre esclave qui était infidèle. Il avait mis tout ça dans un linge. Il avait gardé. Il y a des chrétiens, même des vrais chrétiens, mais aussi beaucoup de ceux qui sont pas nés de nouveau, mais qui professent la chrétienté, qui gardent les choses dans un linge, dans l'orthodoxie, pour ainsi dire, qui connaissent ces choses-là sans que ce soit une réalité dans leur cœur. Mais le Seigneur veut la réalité. Il ne veut non plus des excuses. Ici, cet homme-là a utilisé des excuses pour se justifier. Mais si on fait ça, on s'expose soi-même. Parce que le Seigneur a dit qu'il serait jugé de sa propre bouche. On s'excuse en se justifiant. Il est jugé selon ce qu'il a dit de sa propre bouche. Maintenant, on voit donc le Seigneur Jésus expose le manque de réalité. Il expose la profession, la fausse profession. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un temps où les deux sont là. La vraie confession et la fausse confession. Puis, c'est une question de fidélité au Seigneur, d'amour pour le Seigneur maintenant. Être vrai, être réel, selon ses pensées. Puis, pour finir ce soir, dans 2 Pierre 1, nous avons cette expression, dans 2 Pierre 1, verset 11. « Car ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. » Dans ce passage, l'apôtre Pierre, qui est l'apôtre du royaume, ici il mentionne donc cette expression, le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il donne tout un résumé des qualités qui sont nécessaires aujourd'hui pour notre marche ici-bas. On n'a pas le temps maintenant de parler en détail de cette chaîne de qualités, mais ce sont des qualités que le Seigneur aimerait voir en chacun et chacun de nous. Ces qualités de vrais disciples. Mais c'est en vue de leur introduction de leur royaume dans le royaume éternel. Moi, j'aimerais dire ceci. D'un côté, ces qualités sont nécessaires pour réaliser notre place dans le royaume selon son caractère présent. Et si nous sommes fidèles dans ceci, cela va nous donner donc cette entrée dans le royaume public. Et puis, ce sera une riche entrée, car ainsi l'entrée dans le royaume éternel vous sera richement donnée, richement de la part du roi. Ce sera un honneur pour le Seigneur Jésus de te donner, de vous donner une place à côté de lui, pour ainsi dire, dans sa présence, dans son royaume, parce que il sera content de notre comportement dans le temps de son rejet. Si nous suivons les principes ici que Pierre nous mentionne, cela va nous aider à avoir cette place d'honneur. Une place d'honneur, pas premièrement pour nous, ce sera un honneur bien vrai d'avoir une place là, mais ce sera un honneur pour le Seigneur Jésus d'avoir des disciples dans sa présence qu'il avait honorés dans le temps de son rejet. Ce sera une joie et même une honneur pour le Seigneur Jésus de nous donner cette place. C'est ça un peu la signification de ce verset. Et puis, il y a dans les Actes, le livre des Actes, 7 passages qui nous parlent du royaume de Dieu. Et peut-être on aura le temps de les étudier demain. Mais je mentionne simplement pour ceux qui prennent des notes, dans Actes 1, verset 3, nous avons donc le royaume de Dieu que le Seigneur Jésus a présenté durant 40 jours, dans sa présence avec les disciples, il a parlé du royaume de Dieu. Et dans le livre des Actes, la plupart des passages nous parlent du royaume de Dieu dans son aspect présent et moral. Il y a un passage qu'on espère voir demain qui nous parle du royaume futur, comme aussi 2 Pierre 1, qui nous parle du royaume de Dieu dans son aspect futur. Mais il y a d'autres passages comme chapitre 8, verset 14, 20, verset 25, 19, verset 8, et 28, verset 23 et 30, qui nous parlent du royaume de Dieu dans son aspect présent. Et même ces 7 passages seraient déjà un sujet pour toute une soirée. Donc, c'est vraiment un sujet très important. J'aimerais finir maintenant, je m'excuse que j'avais dit déjà que ce serait le dernier passage, mais 1 Corinthiens 1, verset 9, nous montre un principe important en rapport avec l'assemblée. Dans 1 Corinthiens 1, verset 9, Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et fidèle. L'Épître aux Corinthiens nous parle de l'assemblée, des principes pour l'assemblée locale. Mais qu'est-ce que l'apôtre dit ici? Il parle de notre Seigneur. Et maintenant, il faut rappeler que lorsqu'il parle du Seigneur, il a toujours en vue le royaume. C'est toujours le cas dans les Actes aussi où Paul a présenté le royaume de Dieu. Il a parlé des droits du Seigneur. Ça, c'est simplement le cas. Le Seigneur Jésus est le Seigneur dans ce royaume, le roi. Il n'est jamais présenté comme notre roi dans le Nouveau Testament parce que je pense que ce titre est réservé pour les disciples, les résidus fidèles dans le futur. Mais pour nous, ce roi est appelé le Seigneur, notre Seigneur. Et on voit que cette expression se trouve souvent dans l'Épître aux Corinthiens à cause du fait que le roi est rejeté. Et même dans la réalisation des principes de l'Assemblée, on voit que c'est une question de fidélité au Seigneur. Donc on voit comment ces deux choses, l'Assemblée et le royaume de Dieu, sont liées intimement ensemble. On en parlera demain, Dieu voulant encore, que pour réaliser les principes de l'Assemblée, il faut soumettre au Seigneur Jésus. Même pour avoir la communion avec Dieu, la communion aussi avec son Fils, il faut soumettre à son autorité. Et c'est la communion de son Fils. C'est la communion où Dieu partage avec nous tout ce qu'il a trouvé dans son Fils, dans cet homme Jésus, dans ce Christ. Il est maintenant l'homme loin de Dieu dans la gloire. Toutes ces choses-là, il veut partager avec nous, mais on peut seulement jouir de ces choses-là si on se soumet à son autorité. Puis voilà donc le lien entre le royaume et l'assemblée.